Et c'est une planète qui occupe une place à part dans notre système solaire, géante gazeuse aux tempêtes titanesques. Jupiter est la plus grosse de nos 8 planètes avec ses 66-67 satellites, dont 4 ont été découverts dès 1610 par Galilée. Jupiter constitue donc un véritable système solaire en miniature que les missions spatiales tentent de mieux comprendre. Jupiter, donc la reine des planètes au cœur de notre dossier cet après-midi, avec mes invités et vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Il s'appelle E171, c'est un additif alimentaire et il est aujourd'hui à la une de la science. Pourquoi donc ?
Mais c'est un colorant à base de nanoparticules présent dans les sucreries, le dentifrice ou les chewing-gums. Il est classé cancérogène probable depuis 2006 et aujourd'hui, des tests sur les rats confirment certaines inquiétudes. On fait le point avec le physiologiste Fabrice Pierre tout à l'heure.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Pierre de Certaines.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et donc dans quelques minutes, Jupiter, la reine des planètes dans notre dossier, avec mes invités, les astronomes Thérèse Encrenaz et James Lequeux. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et bienvenue Thérèse Encrenaz. Pourquoi est-ce que Jupiter fait figure de priorité là dans les années à venir pour les recherches spatiales ?
Eh bien, comme vous l'avez dit, Jupiter, c'est la plus grosse des planètes géantes, mais c'est aussi la plus proche. Donc c'est la plus facile à observer. Et ces objets fascinent ces planètes. Vous l'avez dit, elles sont gazeuses, ça veut dire qu'elles n'ont pas de surface,
ouais.
Ce qui est complètement différent des planètes que nous connaissons. Et un autre argument qui favorise cette recherche, c'est qu'on a trouvé une quantité de planètes géantes hors du système solaire, donc à proximité des étoiles proches, et ça a certainement renouvelé l'intérêt que nous avons pour Jupiter, parce que nous voyons une certaine analogie possible entre Jupiter et ses exoplanètes géantes.
Et il y a beaucoup de sondes qui font déjà l'histoire de Jupiter, on va en parler avec vous. James Lequeux, justement une histoire qui commence il y a très longtemps, parce que Jupiter est indissociable de Galilée. Qu'est-ce qu'il a vu exactement au XVIIe ?
Galilée est le premier qui ait braqué sur le ciel une lunette astronomique.
Ouais.
Il a bénéficié d'une longue vue qui circulait, qui venait juste d'être inventée.
Ouais.
Et puis, il a eu l'idée de la braquer vers le ciel. Et il a trouvé tout un tas de choses, et notamment 4 satellites à Jupiter,
ouais.
Et qu'il appelait des étoiles, d'ailleurs. Le nom de satellite est venu après.
Ouais.
Et alors, Jupiter, c'était un petit peu comme un système solaire en miniature. Et ça lui a donné ça l'a renforcé dans son adhésion aux idées de Copernic.
Ouais. Hein.
Et puis, d'autre part, il n'y avait pas que la Terre qui avait un satellite. D'autres planètes en avaient.
Allez, on va poursuivre justement avec vous dans un instant, découvrir cette histoire et puis les recherches actuelles menées donc sur cette géante gazeuse avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.fr.
La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Avec un colorant à base de nanoparticules dans le giron des toxicologues, c'est le E171 qui est à la une de la science.
C'est quoi le E171 ? C'est du dioxyde de titane en nanoparticules. Jamais on n'a su ce qu'il y avait dans ces produits et quels étaient les résultats. Les seules études montrent que ça peut être cancérigène. Tu en trouves dans les M&M's et dans tous les chewing-gums Hollywood.
Voilà, et c'est la méfiance de José Bové en 2015 au micro de nos confrères d'Europe 1. Le colorant E171 à base donc de dioxyde de titane qui est classé cancérigène probable depuis 2006. Mais des chercheurs de l'INRA ont voulu en savoir plus donc sur cet additif contenant des nanoparticules largement utilisées par l'industrie. Et Fabrice Pierre, vous êtes en ligne avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physiologiste et directeur de recherche dans l'unité Toxalim à Toulouse. Vous êtes un des auteurs de ces travaux. Puis dans ce studio avec nous pour commenter cette actualité, Hervé Kem. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avec reporter.net. Hervé, les nanoparticules dans l'alimentation, c'est un sujet que vous suivez de près, hein, cher reporter.
Oui, tout à fait. Mmh. On a fait une grande enquête en 2016 avec plusieurs journalistes en plusieurs volets sur cette question des néotechnologies parce qu'elles se développent très rapidement, mais sans vrai contrôle citoyen et même, disons-le, politique. Et les nanotechnologies, ça produit quoi ? Ça produit des nanoparticules qui peuvent avoir des intérêts, évidemment, mais qui se répandent discrètement dans la vie quotidienne, à commencer par l'alimentation. Il faut rappeler qu'elles mesurent 1 milliardième de mètre, c'est vraiment tout petit. Elles se retrouvent par exemple dans des boîtes de blanquettes de veau, dans des chewing-gums, on l'a vu, dans des biscuits, dans du dentifrice. Et selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, plus de 1300 produits de consommation courante en contiennent sans que le consommateur en soit averti. Or, de nombreuses recherches commencent à montrer que ces nanoparticules pourraient être nocives. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement petites qu'elles peuvent passer à travers les barrières internes de l'organisme. Et c'est tout l'intérêt de l'étude menée par Fabrice Pierre et ses collègues. Ils montrent, ils vont nous l'expliquer, que les nanoparticules contenues dans l'E171, le dioxyde de titane, un additif courant de l'agroalimentaire, eh bien, ces nanoparticules pénètrent dans l'intestin où elles peuvent dérégler le système immunitaire.
Alors Fabrice Pierre, c'est le moment de nous dire ce que vous avez appris de plus sur ce E171 après les recherches de 2006.
Alors concernant ce E171, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce n'est pas un nanomatériau. Au sens de la définition européenne de 2011, c'est un composé qui est formé pour partie de nanoparticules, mais aussi de microparticules. Et c'est là où était le problème, si vous voulez. Il y avait de nombreuses données dans les littératures, mais qui portaient sur des éléments nanoparticulaires à 100%. Ce qui était intéressant, c'est que l'AFSA en 2009, mais aussi l'EFSA en 2016, avait souligné qu'il manquait des éléments importants, des données scientifiques disponibles sur l'exposition orale et l'exposition orale aux pigments alimentaires, qui, encore une fois, n'est pas formé que de nanoparticules. Donc, il y a un projet qui a été mis en place par Éric Coudeau, un directeur de recherche à l'INRA, et moi-même, qui avait pour but vraiment de répondre à ce manque. Et déjà, la première étape, c'était de caractériser ce 71. Donc on a montré, avec un lot qui était acheté dans le commerce, destination d'utilisation en pâtisserie, qu'il était formé à hauteur de 40% de nanoparticules et de 50% de microparticules. Donc l'objet de ce travail a été de se placer au plus proche des conditions d'exposition humaine, donc avec le E171 et pas une molécule modèle, chez le rat à des doses qui mimaient l'exposition humaine. Et on a vu trois grands résultats. C'est qu'effectivement, comme souligné précédemment, avec le E171, il y avait aussi, comme avec les nanoparticules de référence, du passage. On en a retrouvé tout le long du tractus digestif, mais aussi dans le foie, ce qui signait un passage dans le sang. On en retrouvait au niveau du côlon, dans les cellules immunitaires, et c'était associé effectivement à un développement spontané de lésions précancéreuses.
Est-ce que vous avez compris précisément ce que faisaient ces nanoparticules dans notre organisme ?
Alors avant tout, dans ce travail, on a été phénoménologiste, c'est-à-dire qu'on a observé et mesuré les effets. Les mécanismes ne sont pas pour l'instant du tout éclairés. Dans la littérature, on peut retrouver un effet génotoxique de ces nanoparticules, un effet pro-inflammatoire de ces nanoparticules, mais pour l'instant, les mécanismes impliqués dans les effets que nous avons observés n'ont pas été élucidés.
Et tout ça, chez le rat, Fabrice Pierre, il faut bien sûr le préciser toujours, c'est important.
Alors, ce qui est important de rappeler, effectivement, que c'est une étude académique dans un modèle animal. Et toute conclusion tirée d'un travail académique a des limites que sont le cadre de l'étude. Et effectivement, nous avons travaillé chez le rat, donc l'extrapolation directe à l'homme n'est pas possible. C'est un élément qui va être intégré dans l'analyse de risque pour avoir une conclusion plus précise. Et si on revient sur les lésions précancéreuses, nous avons travaillé sur les stades précoces de la carcinogenèse. Ça veut dire qu'on ne peut pas extrapoler jusqu'au stade terminal, jusqu'à la tumeur. Mais par contre, les éléments qu'on a accumulés, et la réaction des pouvoirs publics va dans ce sens, sont une base de travail pour mettre en place des études complémentaires pour conclure définitivement quant au caractère cancérigène, quant au caractère pro-inflammatoire du E171.
Hervé. Alors, on a vu qu'il y a des dizaines ou des centaines, voire plus de nanoproduits, de nanoparticules. Est-ce que vos études ne concernent que le dioxyde de titane ou est-ce qu'elles pourraient permettre une sorte de généralisation à l'ensemble des nanoparticules qui existent déjà dans l'alimentation ?
Alors, dans le cadre de ce travail académique, comme je l'évoquais tout de suite, les conclusions sont limitées par le cadre de l'étude et effectivement les conclusions ne peuvent pas être extrapolées aux autres agents et sont limitées au E171.
Vous avez fait ce travail sur un additif, il est le seul, et vous concluez qu'il influence une inflammation légère de l'intestin. Mais dans les produits transformés, comme le dit Hervé, on trouve beaucoup de particules différentes. Est-ce qu'il est envisagé de tester un effet cocktail, un effet de masse de tous ces additifs ou de toutes ces molécules qu'on trouve dans l'alimentation ?
Alors si dans le cadre de ce projet-là, effectivement, nous n'avons pas abordé la notion de mélange, la notion de mélange faible dose, qui traduit l'exposition que vous évoquez, est un point important. Et de nombreux programmes de recherche à l'INRA sont développés dessus, mais pour l'instant, en tous les cas, il n'y a pas de programme pour le volet dioxyde de titane qui sont commencés sur ce point. Mais effectivement, la notion de mélange faible dose est une notion déterminante.
Fabrice Pierre, est-ce que justement ces travaux sur le rat, déjà, va permettre de durcir la législation autour de cet additif ou c'est encore trop tôt ?
Alors là, moi j'interviens en tant que chercheur académique. Nous avons mis en évidence un danger dans un modèle animal. Nous n'avons absolument pas fait une analyse de risque. L'analyse de risque doit être menée par des agences d'évaluation comme l'ANSES. Donc là, il faudra effectivement se retourner vers l'ANSES. Notre travail à nous, c'est de fournir des éléments académiques, des faits qui seront utilisés ensuite par les évaluateurs pour conclure quant à la modification ou non de la législation.
On trouve le E171 surtout dans les bonbons, et les plus grands consommateurs de bonbons sont les enfants. Est-ce que c'est pas un peu risqué de laisser passer 2 ou 3 ans avant de légiférer sur un produit qui est mangé par beaucoup d'enfants ?
Alors, toujours pareil, hein, c'est l'ANSES qui apportera cette réponse. Les délais suite à une saisine ne seront pas en année. Suite à la saisine mise en place, j'imagine que les retours seront sur l'année 2017.
Non mais Fabrice Pierre, vous êtes très précautionneux, on l'entend bien, mais quand même vous, votre avis personnel en tant que chercheur, quand vous voyez ça sur les rats, qu'est-ce que vous vous dites ?
Alors, encore une fois, j'interviens pas en tant que...
Oui, non, mais ça, on a compris, mais j'aimerais bien avoir votre avis personnel. Vous pouvez être un chercheur engagé aussi, non ?
Alors, nous développons des recherches sans a priori. C'est une obligation éthique, si vous voulez, de conduire cette recherche sans a priori. Donc, quand on a débuté ce travail, nous avions pas d'attente sur un effet néfaste, toxique ou non toxique de la molécule. Et par contre, moi, je ferai confiance aux évaluateurs qui, pour l'instant, n'ont évidemment pas encore assez de données. À nous de leur fournir des données académiques pour qu'ils puissent conclure définitivement.
Alors Fabrice Pierre, une dernière question et un autre sujet. Quand on parle de l'intestin aujourd'hui, on pense tout de suite au microbiote intestinal. Est-ce que vous avez regardé l'effet de cet additif sur cet organe, si je peux dire ça comme ça ?
Alors d'autant plus quand on s'intéresse à la relation sur l'inflammation et la relation sur la carcinogénèse, et effectivement, vous avez tout à fait raison, quelque chose d'indispensable. C'est un projet qui, au niveau de Toxalim, en collaboration avec d'autres unités de l'INRA, commence à être développé. Si l'impact sur le microbiote n'a pas encore été complètement évalué, nous avons mesuré des impacts sur des populations bactériennes pures qui peut traduire effectivement la future mise en évidence d'un effet sur le microbiote. Mais c'est quelque chose qui débute.
Merci Fabrice Pierre pour vos explications. Et puis Hervé, on retrouve ce dossier donc dans les pages de reporter.net, enfin les pages, le site internet.
Absolument. Hein,
pour aller plus loin sur cette question. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Vénus et la Terre se rapprochent à une vitesse d'1,1 million de kilomètres par jour et fin mars, les deux planètes seront le plus près l'une de l'autre, soit 42 millions de kilomètres. Un événement qui arrive tous les 584 jours, prenant en compte la position de Vénus vis-à-vis du Soleil. Son éclat dans le ciel ne va cesser de croître jusqu'au 20 février, rapporte Guillaume Canat, auteur du blog d'astronomie autour du siècle. Ni lunettes, ni télescopes ne seront nécessaires pour observer notre plus proche voisine. Il suffit d'observer le ciel en direction du sud-ouest à la tombée de la nuit. Et vous trouverez d'ailleurs sur notre page Facebook un timelapse de l'observation de l'astronome amateur. Une tranche de graisse de chèvre séchée, c'est le dernier repas d'Ötzi, l'homme des glaces retrouvé momifié dans un glacier des Alpes en 1991. Depuis 2011, on savait que son dernier repas était composé de viande. Mais une récente analyse des nanostructures du contenu de son estomac a montré que cette viande était séchée alors qu'on la croyait cuite. Cette découverte montre qu'il y a 5000 ans, Ötzi et ses contemporains maîtriser la technique du séchage de la viande. Et puis une pochette robotisée pour aider votre cœur à battre. Une équipe de scientifiques anglo-saxons a mis au point donc une prothèse améliorant les performances cardiaques des malades qui ne peuvent pas bénéficier d'une transplantation. Cette pochette, sorte de chaussette entourant l'intégralité du cœur et contrôlée par un pacemaker, serre et desserre le muscle pour stimuler ses battements. Des systèmes de valves et de pompes existent déjà, mais le fait que ces instruments soient en contact avec le sang expose les patients à des risques d'infection et de caillots. Vous pouvez retrouver une vidéo de la chaussette cardiaque sur notre page Facebook. Et on vous embarque pour Jupiter dans un instant. It's knowing that your door is always open and your path for you to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's
knowing I'm not shackled by forgotten words or bones, some ink stains that have dried up on some line. That keeps you on a back road by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me, or something that somebody said cause I thought we'd fit together walking. It's knowing that your world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, every smile and every gentle on my mind. And though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, some other woman crying to her mother cause she turned and I was gone. I still run in silence, tears of joy might stain my face and the summer sun might burn me till I'm blind. Ah, but not to where I cannot see you walking on the back roads by the river's flow and gentle on my mind. I dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cardinal in some train yard. My beard a roughened coal pile and a dirty head pulled low across my face. Through cupped hands and around tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. That you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle. You're waving from the back roads and by the rivers of my memory, for hours you're just gentle on my mind.
Gentle on my mind avec Sissix Steve.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
On vous offre un ticket pour Jupiter cet après-midi dans le dossier de l'émission pour découvrir ensemble la plus grosse planète de notre système solaire et pour nous guider vers cette géante gazeuse. Thérèse Ancrenaz et James Lequeux sont mes invités. Thérèse Ancrenaz, vous êtes astrophysicienne et astronome honoraire à l'Observatoire de Paris, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste des planètes géantes et en particulier de leur atmosphère. Mm-hmm. Et puis James Lequeux, vous êtes astronome honoraire à l'Observatoire de Paris également. Vous avez été pendant 15 ans rédacteur en chef de la revue européenne Astronomie et Astrophysics. Avec les auditeurs qui nous rejoignent, il y a déjà plein de questions pour vous sur le site de l'émission franceinter.fr et ce mot-clé l'attaque. Pour ouvrir notre discussion, j'aimerais qu'on commence par écouter l'extrait d'une œuvre qui s'appelle « Les planètes », celle de Gustav Holst, avec la partie consacrée justement à Jupiter, œuvre écrite entre 1914 et 1917. Elle est composée de 7 mouvements correspondant chacune à une planète du système solaire, avec une vision plutôt astrologique hein, d'ailleurs du système solaire. Et Jupiter, on va l'écouter, qui commence rapidement avec des cordes rapides d'où émerge une première mélodie syncopée. Voilà, on imagine Jupiter, Thérèse Ancrenaz. Est-ce que ça vous va, ce type justement d'interprétation musicale autour de cette géante gazeuse ?
Effectivement, ce morceau a tout à fait la force qui évoque le dieu Jupiter.
Oui, absolument. Ça se calme après, hein, un moment évidemment dans la partition de James Lequeux. C'est une des rares partitions d'ailleurs qui évoque une planète quand même. Hein.
Oh, j'ai presque la seule.
Ah, on vous la passe à chaque fois.
On la passe à chaque fois.
Voilà, ça nous fait plaisir de l'écouter avec Gustav Holst et Jupiter pour ouvrir notre conversation. Pourquoi justement, Thérèse Encrenage, Jupiter fait figure de planète à part dans notre système solaire au milieu de nos 8 planètes?
Eh bien justement parce qu'elle est donc la plus proche et la plus grosse des 4 planètes géantes. Ces planètes sont très différentes des nôtres, les telluriques, parce qu'elles n'ont pas de surface, ce sont des masses de gaz.
Alors vous répondez déjà à une question de Pierre qui dit « Ah donc, il n'y a pas de surface solide sur
Il
n'y
a pas de
Jupiter,
surface solide, c'est du gaz et la pression augmente et la température augmente et on est bien en peine d'imaginer comment peut être l'intérieur de Jupiter. Parce que ce sont des conditions qu'on ne peut pas simuler au laboratoire.
Ouais, mais les sondes, alors, elles vont où exactement?
Ah ben les sondes, donc elles s'approchent, elles descendent jusqu'à une pression, celle qui est descendue en 95, est allée jusqu'à 22 bars, 22 fois la pression atmosphérique terrestre, qui est déjà bien.
Pas mal.
Après, ben, elle a dû imploser, se disloquer, et puis partir
Le temps d'envoyer quand même des informations évidemment scientifiques.
Hein. Elle a été extrêmement fructueuse en termes de résultats.
Ah oui, ça, c'est important de pouvoir envoyer au plus près, évidemment, les sondes.
Tout à fait, oui.
Avec une planète qui reste très mystérieuse quand même. Il y a beaucoup de questions encore qui se posent autour de Jupiter. Hein.
Il y a énormément de questions, aussi bien en ce qui concerne la circulation atmosphérique. Il y a une quantité de tourbillons qu'on comprend mal. Mmh. Il y a la grande tache rouge qui existe depuis plusieurs siècles et dont on ne comprend pas très bien la stabilité et qui d'ailleurs évolue, puisqu'elle diminue régulièrement depuis un siècle ou deux maintenant.
Un siècle à peu près.
Et il y a encore énormément d'inconnus sur cette planète.
Ouais, elle fascine d'ailleurs cette grande tâche, hein, puisqu'il y a des questions des auditeurs à ce sujet. James Lequeux, Larry par exemple sur Facebook, qui demande est-ce qu'on sait ce qui donne la couleur rouge de cette grande tâche? Est-ce que c'est l'activité météo? Il y a des réponses là-dessus?
Malheureusement, on sait très peu de choses sur l'origine de la couleur de la tâche rouge. Bon, certains pensent qu'il pourrait s'agir de produits soufrés, mais c'est très difficile de les distinguer par l'analyse de la lumière de la tâche. Il n'y a pas de traits vraiment caractéristiques de ce genre de produit, si bien qu'on en est réduit à des conjectures.
Il y a d'autres tâches comme ça sur Jupiter?
Oui, il y a d'autres tâches qui sont plus petites. Il y a d'autres tâches qui sont plus petites. Il y en a des rouges, il y en a des blanches qui sont. Alors là, on sait que c'est plutôt de l'ammoniac solide. Mais enfin, tout ça est assez mal compris.
Ouais, mais qu'est-ce que c'est exactement ces tâches?
Alors, c'est des tourbillons.
Ce sont des vents.
Ce sont des tourbillons. On voit d'ailleurs la matière qui tourne à l'intérieur à l'intérieur de ces tâches. Le gaz tourne à l'intérieur de ces tâches.
Ouais. On a calculé la vitesse de ces vents, Thérèse Encrenaz?
Oui, enfin, je n'ai pas le chiffre en tête exactement, mais franchement, ça se compte en.
C'est des kilomètres par seconde.
C'est des kilomètres par seconde.
C'est très rapide.
Hein. Ouais.
James Lequeux, à partir de quand les hommes, justement, ont commencé à observer Jupiter très sérieusement?
Jupiter a été connu depuis l'Antiquité, évidemment. Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour le trouver. Hein. Ouais. Alors, il a fallu d'abord comprendre son mouvement, qui est assez bizarre, parce qu'on le voit avancer et reculer dans le ciel par rapport aux étoiles. Mmh. Alors, ça a été très long. Les Chaldéens avaient déjà, compris ce mouvement, mais pas son origine. Mmh. Ils l'avaient décrit, disons. Les Grecs ont commencé à le comprendre. Mais en fait, on a vraiment bien compris tout ça qu'après les travaux de Copernic, Copernic a montré que c'était le Soleil qui se trouvait au centre du système solaire.
Ouais, donc l'héliocentrisme. Et alors, il avait quel outil, justement, Copernic?
Il avait son intelligence. Il avait son intelligence parce qu'il n'y avait aucune, à l'époque, il n'y avait aucune autre observation que l'observation à l'œil nu, avec des instruments plus ou moins perfectionnés.
Mais c'est inouï quand même. D'imaginer déjà le système solaire avec en son centre donc le Soleil.
Et toutes les planètes apparaissaient comme des points lumineux, on n'avait aucune idée de leur taille, à quoi elles pourraient ressembler, etc.
Intuition géniale. Hein. Et puis évidemment Galilée, vous le disiez tout à l'heure, qui arrive avec sa lunette.
Il arrive avec sa lunette, qui n'était pas d'ailleurs sa lunette, c'était un Hollandais qui avait construit une longue vue destinée à voir l'ennemi de loin. Hein. et Galilée est tombé en possession d'une de ses lunettes, qu'il a trouvée assez médiocre, et comme il était assez habile de ses mains, il a construit une meilleure lunette.
Ouais.
Et avec ça, il a trouvé toutes sortes de choses intéressantes, et notamment les satellites de Jupiter.
Ouais. Alors ça c'est quand même un bouleversement. bouleversement quand même dans la compréhension de l'univers. En quoi c'est révolutionnaire justement?
Eh bien, on ne connaissait qu'un seul satellite, c'est la Lune, notre ouais. Lune. Et le fait qu'il y ait d'autres satellites autour de planètes, ça a porté un coup fatal aux théories de l'immuabilité de l'univers, de la perfection des cieux, etc. Enfin, c'était philosophiquement, ça jouait un rôle très important.
Ce qui va lui valoir quelques ennuis.
D'ailleurs, les gens n'ont même pas voulu croire. Ils disaient que dans ce qu'on voyait dans la lunette, c'était son invention, et il a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour que les gens arrivent à se persuader que ce que disait Galilée était vrai. Ouais.
Voici justement un extrait du téléfilm Galilée ou l'amour de Dieu que nous entendons régulièrement lorsque nous évoquons Galilée dans cette émission.
C'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous ça?
Je ne l'explique pas, Éminence. Je le constate. L'observation précède toujours l'explication.
Il faudra tout de même une explication.
Oui, quand nous aurons compris. C'est vrai, ces satellites de Jupiter me fascinent. Quatre petits astres tournant autour d'un gros.
Oui, je vous comprends. Le ciel est à l'image de la Terre.
Oui, ou bien le contraire.
Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le Collège romain vous aidera, je vous l'assure.
Et c'est d'une beauté extrême. À chaque instant, on peut s'attendre à voir le Seigneur se manifester.
Voilà, Claude Riche, hein, qui joue le rôle justement de Galilée et cette révolution vraiment dans la compréhension hein, de notre système solaire avec la Lune qui n'est plus une exception. Ben, c'est pas rien quand même, effectivement, philosophiquement parlant.
Oui, c'est très important.
Qui sont les autres grands noms de James Lequeux qui vont marquer au fond un peu cette histoire jupitérienne là ensuite?
Le suivant, c'est Cassini. Ouais. Cassini, qui était le premier responsable de l'Observatoire de Paris, il est arrivé en 1669 et c'était un observateur émérite de Jupiter. Il avait déjà fait de très belles observations quand il était à Bologne, avant de venir en France. Et les dessins qu'il nous a laissés de Jupiter n'ont pas été surpassés jusqu'à très récemment.
Donc c'était très solide. Hein.
Jusqu'à l'époque spatiale, si vous voulez. Ouais. C'était un observateur extraordinaire qui devait avoir une acuité visuelle de 12 ou 13 dixièmes.
Mais on est au XVIIe siècle. Hein.
Au XVIIe siècle, ouais. Avec des instruments rudimentaires, difficiles à manier, mais c'était un observateur exceptionnel.
Ouais. Donc ils arrivent à observer la surface de Jupiter. Alors, avec les moyens du bord.
Il a vu les bandes. Quand vous regardez les dessins, c'est extrêmement détaillé. Ouais. C'est formidable. Et on n'a pas fait mieux jusqu'à, même avec les grandes lunettes de la fin du 19e siècle, on n'a pas fait mieux que lui.
Ouais. Comment pouvez-vous être sûr que Jupiter est entièrement gazeuse, demande Laurent, dans une question, Thérèse Ancrenaz.
C'est une bonne question, parce qu'en fait, en ce qui concerne le centre lui-même, on n'en est pas si sûr que ça. Il y a des modèles qui disent que peut-être il y a un noyau solide, avec des éléments lourds. Il y a forcément des éléments lourds sous une forme ou sous une autre à proximité du centre, mais je crois que personne n'est vraiment capable de décrire quel est l'état de la matière à des pressions qui sont quelques dizaines de millions de bars et d'une température qui dépasse 20 000 degrés. Ouais. Donc c'est des conditions qu'on a vraiment du mal à imaginer.
Ouais. C'est fou parce qu'on est dans notre environnement proche, hein. On est dans notre système solaire. Et encore tous ces mystères autour des planètes qui nous sont aussi familières. Hein.
Tout à fait.
Voilà, donc on attend beaucoup des sondes qui sont envoyées là en ce moment.
Oui, enfin en même temps, les sondes, je ne sais pas si elles répondront à toutes ces questions sur l'intérieur de Jupiter, parce que comme vous disiez tout à l'heure, elles ne peuvent pas s'en approcher. Ouais. Mais enfin, on va apporter des contraintes sur la structure interne, on espère.
Et on fera des déductions. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion après Da Silva.
De peur que tu me quittes, j'ai ouvert la porte en grand. Je me suis préparé à te dire adieu, adieu. 100 fois, je suis sorti embrasser des inconnus. Pour te perdre avant l'heure. Te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, des forteresses imprenables. Comme John McEnroe, je te prends de court. Lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Comme John McEnroe, je te prends de court. Lorsque l'amour s'écroule. Au fond du cours, bien avant que la douleur de ton je rongerai ma laisse avec allégresse pour te dire adieu, adieu. J'ai dressé des barricades, des forteresses imprenables. Comme John McEnroe, je te prends de court lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Comme John McEnroe, je te prends de court lorsque l'amour s'écroule au fond du cours. Il a glissé dans le couloir, d'un revers gauche de la main a balayé tout espoir de revenir. Figé dans une colère noire, habité par une faute discutable, il demeure malgré tout dans une culpabilité permanente. Il ne cesse de partir, meurtri de ne pas avoir eu la vie qu'on lui avait promis, une vie parfaite, sans faute et sans blessure.
Rencontre des orages d'ammoniac, de soufre et d'eau. L'exploration de Jupiter serait la mission la plus audacieuse de la NASA. C'est un lieu hostile, avec des températures extrêmes, glaciales et brûlantes. Son rayonnement électromagnétique est si intense qu'il serait instantanément mortel pour l'homme.
Il nous faudrait des protections en plomb très lourdes et très difficiles à transporter. Envoyer des hommes sur la planète Jupiter serait un immense défi technologique. On ne peut pas atterrir sur Jupiter. C'est une planète de gaz, de sorte que l'on n'aurait pas une surface solide sur laquelle atterrir et marcher. On ne ferait que descendre à travers des nuages, puis à un moment on serait écrasé par la pression de l'atmosphère. Envoyer un homme sur Jupiter serait un véritable défi.
Voilà, extrait des mystères de l'univers, cette série américaine. James Lequeux, Thérèse Ancrenaz, mes invités pour Jupiter, la conquête d'une géante chez Belin. Et vous vouliez commenter, hein, Thérèse Ancrenaz, ce que vous entendiez, parce que c'est vrai qu'envoyer un homme là-bas, c'est absolument impensable.
Absolument.
Pour l'instant,
hein. Non seulement ce serait un défi technologique, mais ce serait, à mon avis, une énorme erreur.
Oui.
Parce qu'il faut bien voir que tout ce que nous avons appris sur les planètes du système solaire, ça a été fait par des missions robotiques. Et on n'a pas besoin d'envoyer l'homme dans l'espace pour obtenir tous ces résultats-là.
Ça coûte beaucoup moins cher, d'ailleurs.
Ça coûte beaucoup moins cher.
Facteur 3.
C'est ça.
Oui. Et en plus, on sait très bien qu'envoyer l'homme dans l'espace pose tout un tas de problèmes pour le malheureux cosmonaute et sa santé.
Avant tout, oui.
Donc, je crois qu'on peut dire que majoritairement, les scientifiques privilégient l'exploration robotique.
Absolument. Alors, Sophie, il y a plein de questions sur l'atmosphère de Jupiter. Ça tombe bien, c'est votre spécialité, Thérèse Ancrenaz. De quoi est composée son atmosphère et comment a-t-on fait ces découvertes, justement?
Alors, l'atmosphère de Jupiter, comme les quatre planètes géantes, c'est essentiellement de l'hydrogène,
ouais,
avec un peu d'hélium. Et pourquoi on a ces grandes quantités d'hydrogène? C'est tout simplement parce que la planète s'est formée loin du Soleil, à une distance où la matière pouvait être sous forme de glace. Et on a pu construire comme ça des noyaux qui avaient une gravité suffisante pour attirer le gaz environnant, essentiellement composé d'hydrogène et d'hélium. Et c'est comme ça qu'on fabrique des planètes qui sont donc à la fois très peu denses et très volumineuses.
Alors justement, Julien demande quel a été son développement, son évolution à Jupiter. Elle aurait pu devenir une étoile, tout simplement?
Alors, pour qu'elle soit une étoile, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus massive. Parce que les étoiles aussi sont des boules de gaz. Mais entre le Soleil et Jupiter, il y a un facteur 1000 en masse. Facteur 10 en rayon, un facteur 1000 en masse. Donc, Jupiter n'avait pas, disons, assez de, de masse pour que sa température permette le démarrage des réactions thermonucléaires qui en auraient fait une étoile.
Jean demande comment est-ce qu'on peut parler d'atmosphère à propos justement d'une planète gazeuse. Quelle différence entre les gaz de son atmosphère et ceux de la planète elle-même? James Lequeux.
C'est une question purement sémantique en fait. Toute la planète en gros est une atmosphère, oui, si vous voulez. Sauf peut-être un noyau hypothétique qui, oui, serait solide à l'intérieur. Toute la planète est une atmosphère. C'est une habitude d'astronome d'appeler les couches extérieures,
c'est ça,
à l'atmosphère. Mais c'est purement sémantique.
C'est ça. La spécialiste nous le confirme.
Tout à fait.
Thérèse Antronaz. Et Paul nous dit, vu sa taille énorme, c'est elle qui tourne le plus vite sur elle-même. Mais comment fait-elle pour tourner aussi vite alors? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement?
C'est sans doute la matière dont elle s'est formée tournait très vite, et il n'y a pas d'autre explication possible, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. En fait, on ne sait pas vraiment
encore
pourquoi cette matière initiale tournait aussi rapidement.
Ouais. C'est plus compliqué de comprendre les gazeuses que les telluriques.
Je pense. Mais on peut remarquer quand même que Jupiter et Saturne ont à peu près la même vitesse de rotation.
Ouais.
Simplement, Saturne est plus petite. Jupiter est plus grosse, donc la vitesse à la surface de Jupiter, elle atteint des sommets, simplement du fait de sa dimension.
Alors cette masse justement gigantesque de Jupiter, on peut la remercier finalement, parce qu'elle nous protège aussi. C'est une sorte de bouclier, cette planète, James Lequeux. Hein.
Oui, en effet, Jupiter attire tout ce qui passe autour de lui.
D'aspirateur du système solaire.
C'est un aspirateur. Certaines choses, les météorites ou des noyaux de comètes tombent dessus. On en a vu plusieurs fois dans l'histoire. Et puis, il vit dans quelque sorte tout l'espace autour de lui, de tout ce qui peut traîner. Et donc, il nous protège, en particulier nous, de la chute d'astéroïdes ou de noyaux cométaires qui nous feraient beaucoup de mal.
Alors justement, par rapport à la ceinture même d'astéroïdes, Jupiter joue un rôle prépondérant.
C'est lui qui fixe, en quelque sorte, les dimensions de la ceinture d'astéroïdes.
Est-ce qu'on peut imaginer que sans Jupiter, la vie n'aurait pas pu apparaître sur notre petite planète Terre?
C'est tout à fait possible, parce qu'on recevrait continuellement des cailloux de plusieurs centaines de mètres de diamètre qui tueraient la vie instantanément sur la planète. Ça nous est arrivé quand même. L'extinction des dinosaures pourrait être due à un gros caillou de peut-être 10 km de diamètre. Mais il y a 65 millions d'années, donc ce n'est pas très fréquent.
C'est ça.
S'il n'y avait pas Jupiter, ça serait beaucoup plus fréquent.
Ouais.
Et il n'y aurait probablement pas d'humanité.
Donc quand on le regarde briller dans le ciel, il faut la remercier.
Il faut la remercier chaleureusement.
Régulièrement. Gisèle nous dit, est-ce que vous pourriez nous parler des autres civilisations qui ont observé et analysé les planètes? Parce qu'il y avait les Chinois, les Arabes, les Mayas, les Polynésiens, tout le monde a participé à l'apport de connaissances.
Bon, disons, ceux qui ont été le plus loin, ce sont les Grecs quand même. Ce sont les Grecs. Mais on ne s'est intéressé qu'au mouvement de des planètes dans le ciel. On ne pouvait pas dire quoi que ce soit sur leur nature physique, si vous voulez. Donc, c'était toujours un peu la même chose. On décrivait d'une manière plus ou moins arithmétique ou plus ou moins géométrique le mouvement des planètes.
Ça, la géométrie, ça a beaucoup joué pour les Grecs.
Hein. Les Grecs étaient des grands géomètres, c'est certain. Mais disons, il n'y a pas eu de découverte fondamentale avant Galilée. En fait.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre exploration spatiale de Jupiter, et puis on va évoquer justement toutes les sondes là qui sont en train de tourner autour de cette planète géante.
Terror. Slashed and torn.
Under Pressure, Queen et David Bowie.
La tête carrée sur France Inter.
Et c'est la conquête d'une géante qui nous intéresse cet après-midi, Jupiter chez Belin, avec James Lequeux et Thérèse Ancrenaz, les auteurs donc de cet ouvrage, avec les questions des auditeurs. Gilbert Quinon, à quoi ça sert la recherche sur Jupiter justement, par rapport aux autres planètes? Parce qu'on parlait des satellites tout à l'heure, il y a quand même des choses intéressantes aussi pour les origines de la vie.
Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est la diversité des quatre satellites galiléens de Jupiter. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre.
Oui.
Et alors il y en a un, le premier Io, qui est le siège d'un volcanisme actif, le seul endroit
avec de la lave et tout
avec
et tout.
De la lave, ouais. Du dioxyde de soufre. Ouais. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est Europe. Lui il intéresse tout le monde parce
avec
que
son eau liquide.
Voilà.
Eh oui.
Il a sans doute un océan liquide sous sa surface.
Ouais. Alors on dit toujours il a sans doute. On n'en a encore pas la preuve.
Ah non, parce qu'on n'est pas allé forêt pour le tester.
Le
mais par contre
posera des problèmes. Le forage.
Le forage. Ouais. Posera des problèmes, mais par contre, quand on voit les modèles qui tiennent compte donc de l'énergie que reçoit ce satellite, en particulier les effets de marée avec Jupiter, montrent que la température à l'intérieur du satellite doit être telle que l'eau doit être à l'état liquide.
C'est ça. Et comment on extrapole justement autour de cette question de l'eau liquide sur Europe, hein? Avec quels outils, par exemple, on peut imaginer
des
scénarios?
Alors déjà, il y a quelques indices qui montrent qu'il y a sans doute un milieu visqueux ou liquide. Mmh. C'est que les plaques de glace bougent les unes par rapport aux autres. Et ça, les géologues sont très forts pour reconstituer le milieu qui peut être en dessous. Donc ça, c'est un premier argument. Il y a aussi un champ magnétique qui ne peut s'expliquer, champ magnétique induit, qui ne peut s'expliquer que s'il y a un milieu... liquide, conducteur.
Donc salé. Donc
voilà.
Salé.
Donc ça fait quand même
ça
deux
de l'eau salée. Ouais.
Et Pierre qui demande sur franceinter.fr, justement, certains satellites hébergent des océans. Est-ce qu'on peut envisager un jour d'y habiter? Alors, est-ce que c'est un milieu
alors,
accueillant?
Alors la réponse est non. Et non seulement la réponse est non, mais même pour aller l'explorer. Imaginez le temps qu'il a fallu en Antarctique pour sonder à 3 km sous la glace,
ouais.
En Antarctique.
Ouais. Ce qui représente déjà un record.
Ce qui représente
absolument.
Déjà. Alors, imaginez à 5 unités astronomiques de la Terre, envoyer l'équipement pour sonder, et on ne sait même pas du tout d'ailleurs quelle profondeur il faudrait sonder.
L'épaisseur de la couche.
D'ailleurs, on a les mêmes problèmes avec la planète Mars, hein. C'est-à-dire que les forages, on n'arrive pas à aller très profond.
Ah oui, oui, c'est vrai.
C'est extrêmement compliqué.
Là, c'est des kilomètres, c'est des dizaines de kilomètres probablement.
Donc on est face à des défis technologiques immenses.
Absolument, c'est immense.
Absolument. Mais il n'empêche qu'on a de bonnes raisons de penser que cet océan liquide pourrait bien exister. Et même être en contact avec la surface silicatée, ce qui est très important pour le développement de réactions chimiques qui pourraient amener éventuellement la formation de molécules complexes.
Ouais. Alors vous parliez des satellites Galilée, on a cité Io, Europe et les deux autres.
Alors c'est Ganymède et Callisto qui sont plus gros, tous les deux, qui sont un mélange de glace et de poussière, de roche, etc., qui ont sans doute aussi un océan liquide, mais d'après les modèles, encore une fois, cet océan pourrait être confiné entre deux couches de glace, ce qui les rend moins intéressants.
Noé demande comment est-ce qu'on reconnaît Jupiter à l'œil nu, puisqu'elle est quand même très lumineuse.
C'est la deuxième planète la plus lumineuse après Vénus. Et encore, Vénus est toujours près du Soleil, tandis que Jupiter peut être un peu n'importe où dans le ciel.
Quand on regarde le ciel et que ça brille pas mal...
Ça a des chances.
Vous avez en général, c'est Vénus ou Jupiter.
Et en plus, les planètes ne scintillent pas, contrairement aux étoiles. Donc, elles sont faciles à différencier des étoiles.
Ouais. Roger demande sur Twitter, quelle différence entre les observations depuis la Terre et les observations dans l'espace ?
Alors, l'avantage d'être dans une sonde qui passe à proximité d'une planète, c'est qu'évidemment, on est tout près.
Ouais.
Donc, les caméras peuvent faire des images avec une qualité optique
de résolution
qu'on n'a jamais sur Terre. Quoique, il faut voir qu'avec le télescope spatial en orbite autour de la Terre, on fait des choses qui sont vraiment très belles aussi, et parfois pas tellement différentes de ce qu'on a en orbite.
Alors, une sonde en ce moment qui s'intéresse à Jupiter, c'est Juno.
Tonnerre d'applaudissements pour la mission Jupiter. C'était cette nuit dans le laboratoire californien de la NASA à Pasadena. Après un périple de 2,7 milliards de kilomètres, la sonde Juno est placée en orbite autour de la planète géante. Le responsable de la mission exulte.
La NASA y est arrivée. Je fais partie de cette équipe, de cette grande équipe qui a travaillé si dur. C'est comme un rêve devenu réalité.
Et voilà, et cette joie, c'était en juillet 2015, Thérèse. Combien de kilomètres pour aller voir Jupiter, alors ?
Alors, on est à peu près... Alors, il faut voir qu'on n'y va pas directement. On va faire
des petites escales avant ?
Il faut surtout avoir le bon angle pour pouvoir mettre la sonde en orbite. Sinon, vous allez faire un survol et elle va partir... C'est pas ça qu'on veut.
Donc il faut qu'elle puisse tourner autour de Jupiter.
Voilà.
Ouais. Donc, et combien de temps alors pour
là,
arriver
depuis
la Terre ?
Elle a été lancée en 2011, l'été 2011.
Mmh. Oui.
Donc
elle a mis 5 ans.
C'est en 2016 qu'elle est arrivée. Elle a mis
5 ans. Bon, ce qui est pas mal.
Ah oui.
Et donc Juno est arrivée. Alors que fait Juno aujourd'hui exactement ?
Alors l'objectif principal de Juno, c'est d'étudier la structure interne de la planète. Elle essaye de mesurer la quantité d'oxygène qui est à l'intérieur, parce que c'est un paramètre dont les modélisateurs pensent qu'il nous renseigne sur la façon dont la planète s'est formée. Elle étudie aussi les aurores, parce qu'il y a des aurores sur Jupiter, des aurores comme les aurores boréales ou australes. C'est essentiellement les deux grandes missions, les grands objectifs, disons, de cette mission.
Ouais. Alors, Nicolas demande, Jupiter étant composé d'hydrogène, est-ce que Jupiter pourrait exploser pour une raison ou pour une autre ? Et quelles en seraient les conséquences sur notre système solaire et pour la vie sur Terre ? Ce serait une catastrophe.
L'explosion... ne peut exister
s'il y a
aussi beaucoup d'oxygène.
Ouais.
Donc le risque d'explosion est nul en réalité.
On peut dormir sur nos deux oreilles.
Ouais.
Alors les questions toujours, quelles sont les futures missions et qu'espère-t-on y trouver, demande Joséphine.
Alors il y a un grand projet européen. D'ailleurs il faut dire que l'Agence spatiale européenne tient très bien son rôle en fait face à la NASA. Et il y a une mission qui a été acceptée qui s'appelle JUICE. Alors ce nom fort peu sympathique veut dire orbiteur autour des satellites galiléens de Jupiter ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle est très ambitieuse puisqu'il est question de faire toute une série d'orbites autour de Jupiter et d'un certain nombre de satellites, en particulier donc Ganymède et Europe.
Et Europe.
On peut pas faire tout autour d'Europe parce que malheureusement le champ de radiation de la planète est tellement fort que la mission serait tuée très rapidement.
Ouais, mais les satellites, pardonnez-moi, de Jupiter, ce sont des satellites gazeux aussi de la même manière ?
Ah non, pas du tout. Eux, ce sont des satellites de glace.
Ouais.
C'est comme les planètes telluriques, si vous voulez, sauf que les planètes telluriques, il s'agit de silicates, de roches, tandis que les satellites extérieurs ont des surfaces solides glacées.
Mais il y a des silicates à l'intérieur aussi, c'est comme dans la Terre.
Pourquoi autant de satellites autour de Jupiter, demande Jérôme. D'abord, on en est à combien? 67, 68, il dit 71, lui, dans son...
Il y en a plus, on sait pas, trouver tous les jours.
Ça dépend des limites du diamètre que vous voulez atteindre.
Là, tous ceux qu'on a vus, c'est ceux qui sont plus gros qu'un kilomètre. Mais il y en a probablement encore bien d'autres qui sont plus petits.
Pourquoi autant de satellites, alors?
Ils ont été capturés par le champ de gravitation de Jupiter, tout simplement. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a même des objets plus gros qui sont cassés en morceaux. Il y a des groupements de satellites qui ont des trajectoires semblables. C'est très compliqué, ce système de satellites de Jupiter, mais il est vraisemblable que ce sont essentiellement des astéroïdes qui ont été capturés.
Et qui s'y trouvent bien et qui restent.
Ils sont là pour longtemps.
Luc demande, est-ce que... Oui, Thérèse Anconel.
Oui, on peut dire qu'il y a aussi un système d'anneaux, d'ailleurs, autour de Jupiter.
Ah bon ?
Mais oui, il y a des anneaux extrêmement ténus. Il a fallu la mission Voyager pour le découvrir à la fin des années 70.
Pourquoi on ne les voit pas, comme sur Saturne, alors ?
Oh, mais parce qu'ils sont infiniment ténus. En plus, ils ne sont pas brillants. Les anneaux de Saturne, c'est essentiellement de la glace d'eau. Mm-hmm. Donc, ils réfléchissent la lumière. Tandis que ceux de Jupiter, c'est des silicates. Je ne sais pas exactement, ce sont des matériaux lourds.
C'est de la poussière qui a été probablement éjectée des satellites galiléens par des impacts.
Ouais. Et ils sont très sombres et très ténus.
On a des anneaux sur toutes les gazeuses.
Mais exactement. Oui, mais d'ailleurs, ça fait partie du mode de formation de ces planètes qui ont vu donc une masse de gaz s'effondrer en un disque. Au sein de ce disque, vous avez, en plus des satellites dont parlait James, il y a ceux qui sont réguliers, c'est-à-dire qui sont dans le plan équatorial de la planète, comme les Galiléens, justement. Ouais. Et puis, à proximité de la planète, vous aviez un espace où on voit les anneaux, à peu près jusqu'à deux fois le rayon de la planète. Il s'agit en fait de petits satellites qui se sont détruits parce que les effets de marée étaient trop forts. Ils étaient trop proches pour qu'ils puissent avoir une existence viable.
Et les sondes s'intéressent aux anneaux aussi ?
Oui, dans le cas de Saturne, la mission Cassini a passé énormément de temps sur les anneaux.
Mais les anneaux de Jupiter ça représente un intérêt scientifique particulier ou pas ?
Pas pour beaucoup.
Ça n'a pas fait l'objet des études qu'on a vues sur Saturne, c'est sûr.
Luc demande, est-ce qu'on peut faire une projection sur le devenir de Jupiter à partir des données actuelles ? L'évolution sur cette planète gazeuse, qu'est-ce que ça pourrait donner ?
Bon, Jupiter va se refroidir très lentement, un peu plus que maintenant. Il est déjà bien froid, parce qu'il y a quand même une source d'énergie interne qui est liée à la contraction des régions internes, ça finira par se stabiliser, mais ça va être très 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 long. Enfin, pratiquement pas d'évolution notable, disons.
Jupiter, c'est la conquête d'une géante, donc c'est chez Belin, un livre que vous signez James Lequeux et Thérèse Anconaz, et puis vous êtes en train de nous préparer un quatrième ouvrage ensemble, qui sera consacré aux exoplanètes, c'est ça ? Vous viendrez nous en parler, parce que ça nous intéresse aussi, pour les recherches de vie ailleurs dans l'univers.
Ah oui.
On en a combien là d'exoplanètes ? On était à 3000, 3500 il n'y a pas
3500 longtemps ? 3500 et quelques, je crois.
Ouais.
Ça change tous les jours.
Change tous les jours, il y a de la nouvelle tous les jours.
Voilà, écoutez, j'espère qu'on en aura encore plus quand vous viendrez.
Avec plaisir.
Merci beaucoup en tout cas de votre venue, livre à découvrir donc chez Belin. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Avec Affaires Sensibles dans un instant, de quoi on parle aujourd'hui ?
Retour sur Terre dans ce qu'elle a de moins recommandable, la guerre. Le voyage de François Mitterrand à Sarajevo le 28 juin 1992. Et notre invité, c'est une voix que vous connaissez, c'est Anthony Bélanger qui chaque jour s'exprime, en tout cas du lundi au jeudi, sur France Inter à 7h10. Un journaliste spécialiste de l'actualité diplomatique.
Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure.